Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour à tous. Les Occidentaux en échec face au pouvoir d'attraction du groupe État islamique. De l'Europe à l'Asie, de l'Afrique à l'Amérique, pas un jour ou presque sans attentat perpétré au nom de l'EI. L'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi continue, semble-t-il, d'essaimer à travers le monde. Pourquoi ? Est-ce d'abord l'effet d'une mécanique de propagande bien huilée ? Ou est-ce que Daesh, acronyme arabe de l'EI, profite d'un vide idéologique, d'une absence d'idéal dans des sociétés en crise ? En perte de vitesse sur le terrain militaire en Syrie, en Irak et en Libye, le groupe djihadiste a-t-il les capacités de rebondir ? Nous allons en débattre avec nos invités. Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques, chercheuse associée à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, et vous enseignez actuellement à l'Université de Limerick en Irlande. Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante, spécialiste du monde arabe, chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po. Avec nous également en duplex de France Bleu Provence, François Burga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IREMAM. Première question, peut-être pour vous, François Burga, est-ce que le groupe État islamique a définitivement supplanté Al-Qaïda aujourd'hui ?
C'est une question importante, mais je pense que c'est pas la vraie question que je me poserais lorsqu'on a été soumis à cet exercice comparatif entre les performances respectives de Daesh et Al-Qaïda. Je me suis toujours pris à rappeler que la vraie question, c'est pourquoi y a-t-il des acteurs politiques en nombre croissant qui refusent les mécanismes institutionnels dont on pensait qu'ils pouvaient faire fonctionner le monde jusqu'à présent. Et la réponse, c'est ces extrémistes n'ont de place dans le monde qu'à partir du moment où des dysfonctionnements majeurs privent des pans entiers des sociétés concernées de tout espoir dans la politique au sens classique du terme. Alors, Daesh a effectivement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, pris le pas en termes de visibilité sur Al-Qaïda au cours des 3 dernières années. Mais Al-Qaïda, dans d'autres contextes historiques, a démontré que elle existe toujours et que la matrice des dysfonctionnements du monde qui nourrissent cette radicalisation, non seulement elle existe toujours, mais elle s'est presque emballée. Et pour accélérer un petit peu le débat, je dirais que l'attitude des États-Unis et des Occidentaux dans la crise syro-irakienne depuis 2 ans est au cœur des contradictions qui nous empêchent de penser que Daesh est Al-Qaïda, sous leurs formes respectives dans le champ syro-irakien, sont des forces qui appartiennent au passé.
Agnès Levallois, quel est le rapport de force aujourd'hui entre les deux organisations ?
On parle beaucoup plus aujourd'hui de l'organisation État islamique, de Daesh, avec des comportements de cette organisation extrêmement médiatisés, une volonté de montrer la capacité de cette organisation à être présente sur le terrain, à pouvoir continuer à exercer un pouvoir d'attraction très fort sur un certain nombre de personnes à travers le monde et qui veulent venir rejoindre cette organisation. Donc aujourd'hui, et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire François Burga, Al-Qaïda continue à exister. Il y a des groupes qui se revendiquent d'Al-Qaïda qui sont toujours là. Mais c'est vrai qu'il y a une capacité de Daesh aujourd'hui à pouvoir exercer un pouvoir vraiment d'attraction qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus de Daesh parce que c'est vrai qu'il y a aussi le côté territorial de Daesh qui permet justement d'en parler de façon plus concrète parce que Daesh repose sur un territoire, a cette volonté de créer ce fameux califat. Et donc, c'est vrai que ça lui donne une visibilité bien plus grande. Mais il ne s'agit pas de les opposer. Il y a une réalité sur le terrain d'Al-Qaïda sur certains coins et de Daesh, mais avec l'État islamique, cette volonté effectivement d'ancrage. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre.
Myriam Benrad, est-ce que les dirigeants occidentaux ont sous-estimé, selon vous, et sous-estiment encore, la portée mobilisatrice du califat dont Agnès Levallois parlait à l'instant ?
Bah écoutez, oui, mais je pense qu'il faut réinscrire ces dynamiques à la fois dans le champ moyen-oriental et dans le champ dit occidental, plus historiquement. J'aimerais juste dire un mot sur la question de l'opposition Al-Qaïda-État islamique. Il est vrai que le champ dit djihadiste est traversé de nombreuses divisions, contradictions, débats idéologiques entre ses leaders, ses membres. La réalité, c'est que la notion d'État islamique, elle parcourt en fait toute la pensée islamiste et plus particulièrement djihadiste. Enfin, ça entièrement de manière violente. C'est l'idéal aussi qui est porté par Al-Qaïda, outre le fait que l'État islamique soit parvenu à le réaliser au moins en partie et pendant un certain moment sur le départ entier des deux territoires irakiens et syriens. Il faut bien comprendre que la déperdition ou la mise en échec de l'État islamique actuel ne signifiera pas la fin de cette notion d'État islamique, la fin de l'idéal califal dans l'imaginaire d'un grand nombre de musulmans. Et on voit très bien le pouvoir de traction qu'exerce l'État islamique encore aujourd'hui du fait de ce mythe du califat qui est largement reconstruit, réinventé dans la période actuelle, mais qui renvoie, pour un certain nombre de raisons, les musulmans à l'idée finalement d'une époque où ils n'étaient pas les grands perdants de la mondialisation. D'ailleurs, François Burga a parlé très justement dans un dernier article de la globalisation du ressentiment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Il y a un ressentiment, bon, qu'il soit objectif ou en partie, je dirais, imaginé ou réinventé, fantasmé, mais il est bien réel. Et on voit très bien que l'État islamique, au-delà de ses défaites militaires et territoriales, eh bien, parvient à faire passer à l'acte un certain nombre de personnes, de musulmans, donc dans le monde, notamment en Occident. Donc je crois qu'il ne faut pas déclarer victoire trop vite et bien prendre en compte ces dynamiques plus profondes qui font qu'aujourd'hui, on a cette forme de réification du clash des civilisations, même si moi je m'oppose à cette idée. Mais en tout cas, dans l'imaginaire d'un grand nombre, on est aujourd'hui dans une phase où l'État islamique va parvenir, à mon avis, encore à mobiliser un certain nombre de personnes.
Agnès Levallois, est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans modérés, entre guillemets, qui peuvent être d'accord sur le fond avec le projet du groupe État islamique, donc le rétablissement ou l'instauration du califat, mais pas avec les méthodes sanglantes qu'il emploie ?
C'est ce dont parlait Myriam tout à l'heure, à savoir cette idée, ce fantasme qu'il peut y avoir autour du califat. C'est vrai que cette idée peut trouver un écho auprès d'un certain nombre de musulmans, sans la partie évidemment radicale, avec le sentiment qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans nos sociétés occidentales, avec la politique qui est menée dans ces sociétés occidentales à l'égard du monde arabo-musulman, et là je crois qu'il faut faire un retour en arrière sur toutes les guerres quand même que vit la région maintenant depuis des années, sans remonter trop loin, mais l'invasion américaine de l'Irak, et avec toutes les conséquences que l'on a vues, qui a permis justement l'établissement de l'organisation État islamique, le non-règlement de la question syrienne, le drame de la question syrienne, l'abandon total par les Occidentaux d'une quelconque politique cohérente à l'égard de la Syrie. C'est vrai que tout ça, ça provoque des réactions, une réflexion de se dire, mais finalement, on laisse dans ce monde musulman ces guerres, les Occidentaux y participent, il y a des bombardements, il y a une coalition qui bombarde normalement des objectifs très précis pour éliminer, tenter d'éliminer l'organisation d'État islamique. Bon, c'est très bien qu'il y a forcément des civils qui sont aussi touchés par ce genre de... Donc, il y a une violence dans la région aujourd'hui, et une violence à laquelle participent aussi les pays occidentaux, qui fait évidemment réfléchir un certain nombre de musulmans et qui donne le sentiment, de toute façon, que ce deux poids deux mesures et cette violence est absolument insupportable. Et est-ce qu'il faut essayer d'imaginer autre chose ? Alors, je crois pas que la majorité des musulmans aujourd'hui à travers le monde rêvent de ce califat, mais je pense que dans le contexte de violence actuelle, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut séduire et une vision à laquelle un certain nombre de personnes peuvent être amenées à réfléchir.
François Burga, vous êtes d'accord ou pas avec l'anthropologue franco-américain Scott Atran quand il estime que le Yi représente le discours contre-culturel le plus fort au monde ?
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Moi, il y a très 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 longtemps, j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'islamisme au Maghreb, la voie du Sud ». La voie du Sud, ça voulait dire quoi ? C'est que pour des raisons historiques, qu'on n'aura pas le temps de déconstruire aujourd'hui, mais le lexique de la religion musulmane apparaît comme le lexique qui a le plus fort potentiel de contestation de l'hégémonie symbolique acquis par les Occidentaux pendant la période coloniale. Donc, on a effectivement une réalité qui est que quand on veut dire, je vais euphémiser le mot que je voulais employer, quand on veut dire zut aux Occidentaux, si on le dit en employant la terminologie politique héritée des Occidentaux, ça a un certain poids, mais si on emploie pour s'exprimer à l'égard de l'Occident la terminologie de la culture héritée par-delà la parenthèse, par-delà la fracture coloniale, si on parle musulman, eh bien, les musulmans potentialisent les ex-dominés, les ex-colonisés, qui le sont toujours encore un petit peu, potentialisent le poids de leur démarche. Et donc, effectivement, ceux qui veulent tenir un discours alternatif contre-culturel, qui est la logistique d'un discours contre-politique, critiquent les Occidentaux, ils parlent musulman, ils emploient le lexique, les catégories, ils font appel à l'imaginaire inhérent à la culture musulmane.
Bayan Menrad, est-ce que vous diriez un peu plus de 2 ans après la proclamation du califat que les Occidentaux sont finalement tombés dans le piège tendu par Daesh ?
C'est la notion de piège, bon, elle est intéressante parce que il y avait effectivement, je pense, l'idée en 2014, notamment lorsque le groupe a décapité, assassiné les deux journalistes américains, James Foley et Stephen Sutcliffe, la conviction que cet acte entraînerait un réengagement américain sur le terrain. C'était tout de même la volonté du groupe dans une démarche de représailles et de règlement de compte. Bon, les États-Unis sont intervenus, une coalition s'est organisée. Comme l'a très justement dit Agnès Levallois, aujourd'hui les choses sont quand même très chaotiques, encore plus en Syrie qu'en Irak à mon sens, avec des bombardements qui font énormément de pertes parmi les civils, ce qui est problématique parce que cela alimente évidemment au premier plan la rhétorique de l'État islamique. Maintenant, parler de piège, écoutez, je pense que l'histoire est ce qu'elle est et on pouvait s'attendre à ce que l'héritage américain en Irak soit catastrophique dans la période post-retrait. D'autant que on ne va pas refaire l'histoire de l'occupation, mais le système politique laissé derrière eux par les Américains était un système dysfonctionnel. Maliki, l'ancien premier ministre irakien, a été quand même, je dirais, encouragé, soutenu, même en sous-main par les Américains, alors que celui-ci directement jeté la frange sunnite irakienne dans les bras de l'État islamique. Cette même frange sunnite qui aujourd'hui est plutôt désenchantée après avoir fait le pari d'État islamique contre le gouvernement central et contre les Occidentaux aussi en grande partie, et qui finalement se retrouve en réalité sans repère politique, sans leadership et sans projet idéologique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'important dans cette guerre, c'est de savoir ce qui vient après, parce que l'État islamique s'est engouffré dans le vide politique, institutionnel, symbolique, qui a été créé par l'occupation et par les alliés des Américains, notamment chiites, il faut le dire, qui n'ont pas laissé leur place aux sunnites dans un jeu extrêmement communautarisé. Alors, je distingue bien les élites irakiennes ici, enfin, si on prend le cas de l'Irak, du reste de la population, parce que la réalité, c'est que la population civile, hélas, de cette violence, demande des réformes, en tout cas une mise à plat du système depuis maintenant plusieurs années, revendications qui sont systématiquement ignorées par les élites irakiennes. Et moi, de ce point de vue, je considère qu'au-delà des Occidentaux, il faut quand même reconnaître aussi la faute qui est celle des élites au sens large, qui n'ont pas été capables de proposer un projet à leur société, même dans un contexte, effectivement un contexte de grande violence qui rendait les choses difficiles, mais tout de même, quand on voit, si vous voulez, la dérive autoritaire, les niveaux de corruption, le règne du népotisme, du clientélisme, le fait que finalement les élites irakiennes sont devenues aussi prédatrices que les Américains l'ont été à un moment, c'est catastrophique. Et tout ça est au détriment des populations civiles, quelles que soient les communautés concernées.
Agnès Levallois, vous vouliez réagir?
Oui, juste sur la question du piège, je crois qu'il faut quand même rappeler que lorsque la coalition occidentale, enfin les Américains ont décidé d'intervenir, après donc l'assassinat des journalistes, acte évidemment épouvantable, ça a été bien compris, mais en même temps très mal compris par toute une partie de la population syrienne en particulier, en se disant ça fait 3 ans qu'on se fait massacrer par Bachar el-Assad, que celui-ci utilise des armes chimiques, il n'y a aucune réaction en dépit d'un engagement, de propos qui avaient été tenus par le président Obama en disant si la ligne rouge est franchie, à savoir utiliser d'armes chimiques, on réagira, on ne laissera pas faire n'importe quoi.
Et en
2013, il ne s'est rien passé, parce que Obama n'a pas voulu y aller. Et donc là, ça a provoqué, donc un an après l'assassinat des journalistes, et donc à ce moment-là, l'intervention des Américains, de se dire, mais nous ne comptons pour rien, puisque on se fait massacrer, et à l'époque, il y avait au moins déjà 200 000 morts de ce conflit absolument dramatique, aucune réaction, et avec toutes les règles internationales qui avaient été bafouées, et il suffit, si je puis dire, même si ce que je dis, évidemment, est épouvantable, hein, donc je fais attention à ce que je dis, mais 2 journalistes sont assassinés, et là, il y a une réaction. Et donc là, évidemment que ça peut qu'alimenter la propagande, c'est même pas de la propagande, là, ça provoque une réaction, je veux dire, assez légitime de se dire, mais nous, on ne compte pour rien, on peut se faire massacrer à tour de bras, il n'y a aucune réaction, et les Occidentaux, et les Américains en particulier, réagissent à un moment donné. Donc, évidemment que avec ce ce genre de comportement, on alimente complètement et on permet finalement à cette organisation État islamique à pouvoir trouver, à avoir des arguments qui portent et qui suscitent justement un intérêt de la part d'un certain nombre de musulmans ou d'autres de convertis en se disant mais effectivement il y a une injustice. Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce sentiment d'injustice qui est vraiment un sentiment profond ressenti par une partie de ceux qui rejoignent cette organisation sans forcément mesurer tout de suite ce qu'elle est et ses pratiques. Mais il y a vraiment ce sentiment d'injustice et ça, si on ne le comprend pas, on passe complètement à côté de ce qu'est cette organisation terroriste et avec les pratiques qu'elle a aujourd'hui.
François Burga ?
Oui, je crois que ce qui vient d'être redit est absolument essentiel si on veut en revenir au pire des dérapages de notre posture dans la gestion du problème Daesh. C'est que c'est nous qui lui avons donné son espèce de centralité exceptionnelle. C'est nous qui lui avons conféré cette exceptionnalité parce que nous expliquons à la terre entière pendant 3 ans ou 4 ans qu'il est absolument impossible, contre-productif, illégitime de nous impliquer militairement alors qu'il y a déjà une ingérence étrangère massive, russe et iranienne dans cette crise syrienne. Donc on n'est pas là sur le terrain du débat est-ce qu'il faut des étrangers ou pas. Il y en a déjà. Le conflit se serait terminé si le régime n'était pas perfusé par les Russes et les Iraniens. Et au moment d'entrer en guerre, nous n'entrons pas en guerre contre la source principale du malheur des gens dans cette région du monde. Nous entrons en guerre sélectivement contre un produit de ce dysfonctionnement du système politique local et de la communauté internationale. Nous entrons en guerre, rappelons-le quand même, nous autres Français, contre un groupe armé qui ne nous avait jamais menacés personnellement. Il faut le redire, ça. C'est nous qui prenons l'initiative d'entrer en guerre très sélectivement, non pas contre la source du mal, mais contre une des conséquences du fait que ce mal, de ce permis de tuer, a été pérennisé dans les mains de Bachar el-Assad. Et nous hiérarchisons l'adversité et nous disons, ben non, et nous allons donc nous contredire, tirer une balle dans notre pied, discréditer nos principes. Nous allons dire, celui que nous craignons le plus, c'est pas celui qui fait souffrir le peuple syrien, c'est celui qui pourrait nous nuire à nous. Donc nous allons faire de Daesh le seul objectif de notre intervention parce qu'il pourrait, c'est une lecture extraordinairement égoïste, extraordinairement méprisante pour la totalité de la population syrienne qui, comme l'a dit Agnès, est la principale victime dans une relation à 9 sur 10 à peu près. Des victimes sont les victimes du régime. Et là, nous faisons, je pense, une espèce d'harakiri politique et nous accordons à la crédibilité de Daesh symbolique une formidable bouffée d'oxygène. Et bien sûr, pour arriver à l'actualité très 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 récente, le fait que les États-Unis ne s'en prennent pas seulement à Daesh mais à tous les groupes dont ils considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment rompu avec l'idéologie de ce groupe, on n'a pas le temps de le dire, mais ce qui les amène à frapper l'opposition militaire utile à Bachar el-Assad aggrave cette hémorragie de légitimité de la position des Occidentaux dans ce conflit et, bien sûr, amène autant de contre-crédibilité aux seuls qui sont dignes de notre adversité, c'est-à-dire les groupes djihadistes.
Alors, je disais tout à l'heure que le groupe État islamique essaimait à travers le monde. Agnès Levallois, quel crédit on doit apporter aux déclarations d'allégeance à l'EI faites par des groupes aussi divers que Boko Haram au Nigeria ou Abu Sayyaf aux Philippines, par exemple ?
Écoutez, c'est vrai que c'est un projet, en tous les cas, qui est porté par cette organisation État islamique, par Daesh, qui est largement relayé par les médias qui s'emparent de tout ce que peut faire Daesh aujourd'hui. Et donc, pour des groupes qui ont aussi envie d'exister, qui existent et qui ont un projet, de se revendiquer, de faire allégeance à cette organisation État islamique, c'est vrai que ça lui apporte aussi une crédibilité, une visibilité. Et là, on rentre vraiment dans un des aspects de cette organisation, qui est vraiment la communication. Et donc, ils sont en plein là-dedans.
Et
ils ont très bien compris finalement que c'est vrai que pour exister, ben c'était très bien. Et si en plus le projet correspond au projet que ces groupes-là peuvent avoir, pourquoi se priver de cette publicité et de cette capacité du coup à pouvoir attirer du monde? Parce que Daesh a réussi à entraîner avec ce pouvoir, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées d'ailleurs par François Burga, et donc qui ne se limite pas simplement à la région monde arabe, mais à ce monde musulman. Et encore une fois, avec ce sentiment dans ce monde musulman aujourd'hui, qu'effectivement ce monde musulman d'une façon générale, même si ça se décline de façon très différente suivant les terrains, n'est pas considéré de la même façon, on se comporte pas, les Occidentaux ne se comportent pas à l'égard de ce monde de la même façon qu'ils se comportent avec d'autres peuples ou d'autres populations ou d'autres régions du monde. Et donc, on est vraiment en plein dans cette attitude qui est extrêmement radicale et qui, du coup, conduit à des actes radicaux également.
On va faire une petite pause, le temps du journal, et on se retrouve dans 10 minutes pour la suite de Géopolitique.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Suite de Géopolitique consacrée au groupe État islamique avec François Burga, Myriam Benrad et Agnès Levallois. François Burga, le 7 septembre, un raid de la coalition menée par les États-Unis a tué le responsable de la propagande de l'EI, connu sous le nom du docteur Wail. Fin août, l'EI avait perdu son stratège et porte-parole, le Syrien Abu Mohamed al-Adnani, tué par une frappe américaine. Est-ce que ces pertes sont des coups rudes portés au groupe État islamique et à sa communication notamment?
Sur le terrain du principe, je répondrai non. Les pertes individuelles affectant un mouvement entre guillemets révolutionnaire ne sont jamais centrales dans le destin de cette mobilisation. Maintenant, vous avez parlé de communication comme étant le secret, l'arme absolue. J'avoue que moi, ça m'agace un petit peu quand j'entends surinvestir. Le secret de la mobilisation de Daesh serait sa capacité à mobiliser. En face, il y a tout de même l'extraordinaire densité des moyens de communication occidentaux. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de dangereux qui procède d'une dérive que j'ai souvent dénoncée en disant, face à Daesh, on aime bien connaître le comment. Et on aime bien tous les détails du comment, par où est passé le criminel. Et ça masque une incapacité à nous poser ce qui, à mon sens, est la vraie question. C'est pourquoi? C'est non pas comment se manifeste cette hostilité à notre égard, mais d'où elle vient? Est-ce qu'il n'y aurait pas une marge d'action sans renier nos principes, sans renier nos convictions, sans trahir nos amis? Est-ce que nous n'aurions pas une toute petite marge d'action efficace en considérant sérieusement, réalistement, l'origine de cette hostilité pour voir si par hasard nous ne pourrions pas l'atténuer au lieu de verser de l'huile sur le feu en envoyant le Charles de Gaulle? Est-ce qu'on aurait pu s'interroger sur le réalisme de notre gestion de la crise syrienne? Bon, j'ai énoncé un principe un peu caricatural. Après, bien sûr, il est communément admis parmi les observateurs que entre la génération Al-Qaïda, hein, on pourrait revenir sur le gap générationnel entre Al-Qaïda et Daesh, ils ont fait de très très gros progrès dans le domaine de la communication et ils ont adopté certaines des techniques qui explique l'hégémonie hollywoodienne ou occidentale sur le monde au cours des décennies écoulées. Donc ça, il ne faut pas le nier. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on en fasse l'explication avec un E majuscule. Parce que souvenez-vous, quand les cassettes audio sont apparues dans les modes d'action des islamistes dans les années 80, je me souviens déjà de certains écrits qui nous expliquaient « Ah, les salauds, ils utilisent dorénavant, figurez-vous, les cassettes audio, ça va tout changer. Ils utilisent les armes que n'importe quelle mobilisation humaine à la surface de la planète utilise parce qu'elles sont disponibles. » Donc oui, bien sûr, il y a un différentiel qualitatif dans la communication de Daesh. Il a été souligné et il est réel, mais il ne faut pas que la prise en compte de ces progrès qu'ils ont fait en matière de communication nous empêche de nous poser la vraie question, c'est pourquoi y a-t-il cette hostilité et n'est-ce pas sur ce second terrain que nous devrions intervenir?
Mais quand même, c'est intéressant de se pencher sur la façon dont ils communiquent maintenant ou de la façon dont ils font leur propagande. Agnès Levallois, vous avez étudié cette façon de communiquer, qu'est-ce qui vous frappe?
Même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François Burga, il ne faut pas que la communication occulte le reste, mais en même temps cette communication aujourd'hui est là, elle est efficace, elle fonctionne. Et donc c'est intéressant de regarder comment c'est fait. Ce qui est très frappant, même si ça va paraître une banalité, c'est de voir qu'on a une organisation qui est en mesure de communiquer vis-à-vis de publics très particuliers. Il y a une communication dans une dizaine de langues, même dans le langage des sourds. Et donc, il y a des vidéos, il y a des journaux qui sont dans différentes langues. Enfin, il y a une capacité à s'adapter à un public extrêmement large et en s'adressant directement à ce public dans sa langue, en sachant que la langue arabe n'est pas la langue parlée par l'ensemble des personnes auxquelles s'adresse cette communication. Et il y a une capacité à réagir grâce à ces moyens, à cette technologie, et que donc il y a des vidéos qui sont faites avec des images, avec un côté effectivement, dans certains cas, très Hollywood,
avec des effets spéciaux,
avec des effets spéciaux, avec une musique extrêmement entraînante. Quand vous regardez un certain nombre de vidéos, au bout d'un moment, vous êtes complètement pris par la musique, par les bandes-sons de ces vidéos, et vous vous rendez compte que vous êtes complètement pris et que vous avez les airs dans la tête. Donc c'est vraiment une communication, mais comme n'importe quelle autre communication faite par d'autres acteurs. Et donc tous ces codes-là, ils les ont évidemment complètement intégrés. Et ils font, de ce point de vue-là, un travail qui est très efficace. Toutes les vidéos ne sont pas des vidéos gore. Il n'y a pas toujours des scènes épouvantables. Il y a aussi des vidéos qui sont très soft, qui montrent la vie sous le règne de l'État islamique, avec des institutions qui fonctionnent, dans un contexte où, justement, vous avez des États qui se sont complètement effondrés, qui ne fonctionnent plus. De montrer des images dans certaines villes contrôlées par Daesh et qui montrent évidemment que des côtés positifs s'en montrent. Ça vous donne aussi une image de dire, ben finalement, eux, ils arrivent à faire fonctionner des institutions. Et donc, tout ça, ça participe de cette vision qui peut être idéalisée après par certains et avec tous les dangers que ça peut évidemment représenter.
Et donc, tout est contrôlé de A à Z. Mayam Medrad, est-ce que c'est ça le fait nouveau? C'est le fait que l'État islamique n'a plus du tout besoin maintenant des médias traditionnels?
J'ai un problème avec cette dichotomie entre, enfin, on a parlé de djihadosphère, on djihadologise un peu là tout cela. Moi, je trouve qu'il faut sortir des essentialismes, des culturalismes. Si on regarde la réalité de l'État islamique, c'est la face sombre de la globalisation. C'est à la fois l'Orient, l'Occident. D'ailleurs, il faut bien comprendre, ce dont il se réclame, c'est une forme d'universalisme musulman, qui d'ailleurs trouve sa place totalement dans le côté global aujourd'hui du monde dans lequel on vit. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille s'étonner du fait qu'ils maîtrisent parfaitement les technologies, du fait qu'ils sont capables d'opposer à Hollywood, leur propre Hollywood, je dirais, revu et corrigé selon l'État islamique. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de la question de la haine des médias traditionnels. Ça revient aussi à finalement attribuer aux orientaux, entre guillemets, ou aux personnes de l'État islamique sur le terrain irakien et sur le terrain syrien, une forme d'arriération qui serait propre au monde musulman. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, ces gens maîtrisent tout à fait les nouvelles technologies Internet. D'ailleurs, ça fait partie aussi de leur forme de réaffirmation identitaire. Parce que quand ils disent c'est la fin de l'humiliation, c'est la fin de justement l'arriération, c'est le retour à la gloire de l'islam, ils se sont donné vraiment pour mission de prouver en quelque sorte à leurs adversaires qu'ils étaient au niveau et qu'ils sont capables de rivaliser non seulement sur la communication mais sur tout le reste. Donc je dirais qu'il faut quand même vivre un peu dans le monde actuel. On n'est pas vraiment dans une opposition Orient-Occident et je trouve qu'il y a un eurocentrisme très très prononcé dans cet étonnement qu'on a face à ce qu'ils sont capables de produire.
Alors justement, vous parliez d'ethnocentrisme. L'été dernier, il y a eu un débat au sein de la presse en France sur le fait que, à force de parler des terroristes, à force de répéter leurs noms, de montrer leurs photos, des images, on en faisait des héros. Quelle est votre position là-dessus, Agnès Levallois?
Que les médias s'interrogent à comment traiter toutes ces questions de terrorisme, je pense que c'est tout à fait salutaire et que ça devrait d'ailleurs aller beaucoup plus loin dans la façon dont on parle de ce qui se passe, dans la façon qu'on a de traiter cette information. Maintenant, sur le débat de savoir s'il faut donner les noms, si de toute façon les noms maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, de toute façon, toute cette information existe. Moi, je pense que ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de savoir effectivement comment on traite, quelles sont les règles qu'on s'impose, d'éviter de passer en édition spéciale dès qu'il y a la moindre information sans qu'elle soit vérifiée. Je trouve que c'est beaucoup plus ça qui est vraiment dangereux dans notre façon de traiter l'actualité que de se dire le nom, la photo, effectivement, il n'y a aucun intérêt à les transformer en héros. Mais je pense que la vraie question pour moi, elle n'est pas là. La vraie question, c'est comment on traite? Est-ce qu'on évite toutes les dérapages auxquels on a assisté, où on voyait à peine il y avait une petite info qui sortait de nulle part sans aucun élément concret, de passer en édition spéciale pendant 24 heures et donc en alimentant un espèce de délire avec des images, parce que maintenant les chaînes d'information continuent pour exister, ont besoin de ça. Pour moi, c'est vraiment ça la question importante à poser, beaucoup plus que de se limiter finalement à se dire il y a le nom, le visage pour éviter d'être des héros. Et je pense qu'en disant ça, on donne bonne conscience en se disant on a réfléchi et on va faire plus attention, mais sans vraiment s'intéresser au cœur de la question, qui est notre rapport à l'info dans ces situations, mais qui là peut être généralisé, je dirais, à d'autres sujets en dehors de Daesh.
On a trop privilégié l'émotion au détriment de l'information, Myriam Benrad?
Bah écoutez, moi je parle de fuite en avant. J'ai moi-même été dépassée là dans les derniers temps par la couverture médiatique, cet attachement aussi aux événements au détriment de l'analyse de fond. Il y a des vrais enjeux de société politique autour de la lutte contre l'État islamique qui vont bien au-delà d'ailleurs de l'État islamique lui-même. L'État islamique est venu en quelque sorte poser des questions, en tout cas si on prend le cas de la France, à notre société, qu'il va falloir appréhender au-delà des prismes tout faits, préconçus de la radicalisation, des radicalisations. L'idée finalement finalement qu'on va pouvoir à coup de bombardement résoudre des problèmes qui nous sont propres. Et quand François Burga parle de problèmes liés à la question coloniale, moi je suis tout à fait d'accord. Donc en gros, on nous dit qu'on va déradicaliser des gens qui portent un discours sur un certain nombre de phénomènes, de données, dont la question de la colonisation, qui revient en boucle hein, dans leur discours. Et moi je trouve qu'on fait un peu du pis-aller, et là de ce point de vue, les médias jouent le jeu d'une expertise, je dirais, très superficielle souvent, alors qu'on n'est pas dans un moment événementiel, on est dans un moment où se posent de vraies questions à la société française. Et je ne sais plus qui a parlé en fait de risque d'implosion de la société française, j'ai oublié le nom du chercheur qui a récemment accordé un entretien, mais là je crois qu'on est vraiment à un tournant de l'histoire. Et si on n'est pas capable maintenant de résoudre un certain nombre de problèmes structurels qu'on a laissé pourrir pendant des décennies en France, on ne sortira pas du cycle dans lequel on se trouve actuellement.
J'ai une question sur les réseaux sociaux, parce que vous parlez des problèmes structurels, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a cette question de la porosité des réseaux sociaux, de surveiller ce qui s'y passe. Agnès Levallois, quand par exemple, on apprend que la messagerie encryptée a servi à Rachid Kassim, par exemple, pour recruter les deux jeunes tueurs de l'église Saint-Étienne du Rouvray, ça c'est un vrai problème, ce problème de contrôle de ce qui se passe sur la toile.
Bien sûr, alors c'est vraiment le rôle des services de sécurité, de renseignement, de savoir comment on gère ça, pour éviter que des gamins se fassent embrigader et qu'on leur demande de commettre des actes terroristes épouvantables. Donc évidemment que c'est un élément à prendre en compte, mais ça c'est du ressort des services de sécurité. Quels moyens on donne à ces services pour travailler et pour repérer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Mais ce que je crois, c'est vrai que le traitement de cette actualité aujourd'hui, en tous les cas en France, parce que je suis en France, la façon de le traiter avec cette espèce de breaking news en permanence, je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que ça empêche de réfléchir, de sortir de ce côté émotionnel. Et après, ça permet tous les amalgames auxquels on assiste en ce moment qui sont extrêmement graves. Donc je pense que la profession a vraiment besoin de travailler, de réfléchir pour faire en sorte de pas se laisser embringuer dans cette espèce de délire, parce que c'est vraiment pour moi une façon de réagir qui est de l'ordre du délire total et surtout qui ne donne rien à comprendre.
Je reviens aussi sur ce qui s'est passé ces dernières semaines en France. Plusieurs adolescents ont été soupçonnés, arrêtés pour avoir envisagé de commettre des attentats. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie pour le groupe État islamique, prendre dans ses filets des mineurs fragiles, malléables et toujours hyper connectés? Agnès Levallois.
C'est vrai que c'est un moyen de toute façon de qui a une part énorme de manipulation de la part de certains qui recrutent des jeunes. Évidemment, je veux dire, c'est un mécanisme qui est un mécanisme d'ailleurs qu'on a encore du mal à complètement appréhender. Il n'y a pas un profil qui soit le même pour toutes les personnes, tous les jeunes qui se retrouvent prises dans les mailles de cette organisation. Il y a vraiment une besoin pour appréhender ce phénomène de recouper tout un tas d'éléments. Donc il faut vraiment se garder d'une vision très simpliste en disant c'est tel type de personne qui va se retrouver dans ce réseau, et c'est bien ça la complexité, et c'est bien pour ça qu'il faut être très très modeste, je crois, quand on en parle, et de faire très attention aux termes qu'on utilise, parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement complexe avec tout un tas de paramètres qui rentrent en considération, des paramètres locaux, sociaux, mais aussi cette dimension internationale dont on a parlé tout à l'heure, qui pour moi est aussi une dimension extrêmement importante, mais l'une n'excluant pas l'autre. Ce qu'il faut accepter de se dire, c'est que d'abord, il y a des aspects qui nous échappent, mais que ce sont vraiment un faisceau d'éléments qui pourraient permettre de commencer à appréhender le phénomène.
François Burga, je reviens à la situation au Proche-Orient. On l'a bien compris, hein, donc pour vous, la solution militaire ne réglera rien. Quelle solution politique est envisageable aujourd'hui dans des États comme l'Irak et la Syrie, où la guerre a eu pour effet d'exacerber les fractures confessionnelles?
Oui, le cadre analytique général, c'est moins de bombes et plus de réinstitutionnalisation. Hein. Ce qui manque dans cette région du monde, c'est des institutions avec lesquelles les populations concernées seraient réconciliées. En Syrie, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas échapper à la problématique d'une négociation. Malheureusement, ce que nous avons fait au cours des deux années écoulées nous a éloignés d'une conjoncture où le régime se sentirait suffisamment en danger pour prendre au sérieux les attentes de l'immense majorité de la population qui est représentée par son opposition. À force de lui injecter de l'oxygène et de la dopamine par intervention iranienne russe interposée, à force de alléger son fardeau militaire par intervention occidentale sélective interposée, posé, nous l'avons mis dans cette position arrogante où il est aujourd'hui, où on voit très bien que la stratégie des Russes se confond avec celle du régime, qui est de permettre au régime de se maintenir par la force brutale. Donc la solution actuellement, je pense qu'elle s'appelle négociation. Il ne peut pas y avoir de négociation si le régime ne se sent pas suffisamment en danger pour avoir à faire des concessions. Et tout ce que nous faisons maintenant depuis 2 ans diffère malheureusement ce point de rupture où il pourrait y avoir une véritable négociation et pas un demi-ministère accordé à une opposition euphémisée dans une négociation qui ressemblerait trop à une capitulation. Parce que sinon, eh bien, nous nourrissons le transfert de forces armées vers les groupes les plus radicaux, Nusra sous sa nouvelle appellation et Daesh. Donc actuellement, nous faisons le contraire de ce qui pourrait nous rapprocher d'une solution négociée.
Myriam Benrad, est-ce qu'une des solutions pourrait être, par exemple, le fédéralisme dans la région ?
Votre question est très importante parce que la question aussi, c'est quel est l'objectif de ces interventions militaires ? Que cherche-t-on à reconstruire effectivement en Irak, en Syrie, en termes d'institutions, comme le disait aussi François Durgaï, il a raison là-dessus, parce qu'il n'y a plus d'état de droit depuis très longtemps dans cette région. Maintenant, la question fédérale, bon, sur la Syrie, je pense qu'il est prématuré de la poser. Dans le cas de l'Irak, ça l'est moins. Ce d'autant que sur le terrain, l'État islamique est mis en échec par un certain nombre de forces qui sont parvenues à se coordonner. Maintenant, éloignons-nous d'une réalité qu'on pourrait décrire comme en djihadiste. Il y a eu énormément de morts. Les violences se poursuivent même dans les territoires qui sont dits libérés. Pourquoi ? Parce que, eh bien, évidemment, c'est l'heure des règlements de compte, sans compter le nombre de réfugiés, de déplacés, etc. Bon, au-delà de ça, il n'y a pas énormément de discussions en réalité sur l'après. Pour l'instant, les territoires qui ont été libérés, c'est des gestions, une gouvernance ad hoc, des gestions qui sont finalement improvisées qui fonctionnent plus ou moins bien. L'enjeu étant évidemment quel après sur le plan institutionnel, quelle négociation entre Bagdad, les Kurdes, un certain nombre de forces qui ont été à l'avant-plan de la lutte contre l'État islamique pour reconstruire un ordre institutionnel. Quand je parle d'institution et d'ordre, enfin de gouvernance, il faut bien comprendre que les populations, en fait, actuellement, après ce flot de violence qu'elles ont subi, demandent la sécurité, l'eau, l'électricité, des infrastructures. C'était le programme qui avait fait la popularité de l'État islamique parmi une frange importante des sunnites d'Irak, évidemment, ont été déçus au bout de 2 ans, qui, comme je l'ai dit précédemment, sont aujourd'hui largement désenchantés. Mais si l'État irakien veut retrouver la maîtrise de son territoire et pouvoir passer des accords avec un certain nombre de forces sur le terrain, il va falloir réintroduire la notion de contrat social, parce que c'est ce qui manque en réalité. Les populations veulent un contrat social et veulent pouvoir, si vous voulez, faire confiance à leur État. Bon, le problème étant qu'on a une milicisation de cet appareil d'État dans le cas de l'Irak, et des milices aujourd'hui chiites notamment, qui sont plus fortes que l'État central. Et puis, les sunnites, comme je l'ai dit, manquent aujourd'hui malheureusement de représentation politique. Donc les jeux ne sont pas faits, mais la question de la réorganisation effectivement du territoire, la réorganisation administrative, les accords qui seront passés sur le partage du pouvoir, la question des ressources évidemment, de la rente pétrolière, etc. Tout cela, c'est l'enjeu en fait, au-delà du tout militaire, qui ne conduit à rien sur le long terme.
Agnès Levallois, vous êtes d'accord ?
Oui, je crois que de toute façon, la question qui se pose pour sortir de cette situation, c'est de revenir à une négociation politique. Dans le cas de la Syrie, c'est évident. Dans le cas de l'Irak, d'un contrat social, mais qui sera aussi valable pour la Syrie, savoir sur quel contrat social les sociétés vont pouvoir se mettre d'accord dans le cadre d'une sortie de crise. Sauf que le problème pour la Syrie, c'est qu'on n'est absolument pas encore dans ce cas de figure et qu'on a une communauté internationale complètement lâche par rapport à ce conflit syrien et qui entretient l'organisation État islamique par son incompétence notoire et son manque de courage absolu et sa lâcheté insensée face à ce drame que vit la Syrie depuis maintenant plus de 5 ans.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique, Agnès Levallois, Myriam Benrad et François Burga. Myriam Benrad, on vous doit Irak de Babylone à l'État islamique aux éditions Le Cavalier Bleu et Irak, la revanche de l'histoire de l'occupation étrangère à l'État islamique aux éditions Vendemiaire. François Burga, vous allez publier le mois prochain Comprendre l'islam politique aux éditions La Découverte. découverte et vous avez coédité Pas de printemps pour la Syrie, toujours à la découverte. Et puis Agnès Levallois, vous avez coordonné le dernier numéro de la revue Confluence Méditerranée sur l'Arabie Saoudite et l'Iran. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation de cette émission, à Sophia Bédard pour la coordination et à nos confrères de France Bleu Provence. Bonne semaine à tous.